Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons ouvrir la parole de Dieu dans Ésaïe et dans le livre des Actes. Et le titre de mon message, c'est « Témoignons avec joie de notre foi ». Témoignons avec joie de notre foi. Alors, tout au long de l'histoire de la rédemption, Dieu a déversé ses bénédictions sur l'humanité par l'intermédiaire du peuple de son alliance. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'Israël soit un réservoir emmagasinant les bénédictions divines pour lui-même. Les Israélites devaient plutôt être un entonnoir par lequel ses bénédictions pourraient être dispensées à un monde perdu. Dans Ésaïe, Dieu les a comparés à une lampe qui éclaire les ténèbres autour d'eux. Il a dit à Israël, en Ésaïe chapitre 42, « Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. » Pour être la lumière des nations. Mais Israël a échoué lamentablement dans sa mission en raison, on peut dire, de deux tendances extrêmes qui toutes deux obstruaient le canal des bénédictions de Dieu. Premièrement, son nationalisme séparatiste lui interdisait tout contact avec les nations païennes. Et dans la Bible, on a l'exemple de Jonas, Jonas qui personnifie ce genre d'attitude. Ayant reçu l'ordre de prêcher aux Assyriens, il est parti plutôt, vous le savez, dans la direction opposée. Et ce n'est qu'après avoir passé 3 jours dans le ventre d'un gros poisson qu'il a accepté, enfin, à contre-cœur, d'aller à Ninive. Puis, au lieu de se réjouir quand Ninive s'est repenti, il s'est montré extrêmement déçu. L'autre extrême est celui des compromis. Des compromis. Influencé par les nations environnantes, Israël tombait souvent dans l'idolâtrie. Et Israël idolâtre n'avait aucun message pour les nations païennes idolâtres qui l'entouraient. À l'époque de Jésus, le culte des idoles païennes avait cessé. Malheureusement, il a été remplacé par une forme corrompue, on peut dire, de judaïsme qui préconisait le salut par les œuvres. À cause de l'échec d'Israël, Dieu s'est fait un nouveau canal par lequel ses bénédictions pourraient atteindre le monde, l'Église. L'Église embrasserait toutes les nations sans toutefois, bien sûr, supprimer les bénédictions prévues par Dieu pour son peuple Israël. Alors, commençant le jour de la Pentecôte à Jérusalem avec un groupe exclusivement juif, l'Église n'a pas tardé à s'étendre aux Samaritains. Et dans le passage à l'étude, aujourd'hui, une autre étape est franchie quand Philippe présente Jésus-Christ à un païen éthiopien. Par cet homme, un ministre haut placé de la cour de la reine d'Éthiopie, l'Évangile pénétrera pour la première fois les âmes du grand continent africain. Alors, je vous invite à lire ce matin 2 passages des Écritures. Tout d'abord dans Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 8. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? Le deuxième passage, c'est dans le livre des Actes, chapitre 8, versets 26 à 35. Un ange du Seigneur, adressa la parole à Philippe. « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, reine d'Éthiopie, et le surintendant de tous ses trésors. Il était venu à Jérusalem pour adorer, et il s'en retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et rejoins ce char. » Philippe a couru et a entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Et il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ? Et il invita Philippe à monter s'asseoir avec lui, et le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Celui-ci, il a été mené, nous avons lu précédemment, comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit a été supprimé, et sa génération, qui la racontera ? Car sa vie a été supprimée de la terre. Alors, l'eunuque prit la parole et dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ?» Ça paraît logique. De lui-même ou de quelqu'un d'autre ? Alors, Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors, nous aimons lire Ésaïe 53. C'est un chapitre bouleversant. Nous voyons l'intensité des souffrances du Sauveur, son humiliation, sa mort expiatoire qui nous procure la paix avec Dieu. Ce passage nous aide à commémorer la passion et la mort de notre Sauveur en croix. Et Ésaïe 53 est aussi un texte missionnaire très important. Parfois nous l'oublions. Oui, c'est ce texte de la parole de Dieu qui a permis d'ouvrir la route de la grande mission vers l'Afrique. Je ne parle pas des missions modernes qui ont pris leur expansion durant les siècles derniers. Je parle de la mission de l'Église primitive. Un Éthiopien, haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie, était venu adorer Dieu à Jérusalem. Pendant son voyage de retour vers l'Afrique, cet Éthiopien lisait le prophète Ésaïe. Alors nous allons voir d'abord la soumission de Philippe. La soumission de Philippe. Il se leva et partit. Alors nous savons que Dieu accomplit souvent son œuvre souveraine par des instruments humains. Comme un maître sculpteur, il emploie des outils par ailleurs inutiles et insignifiants pour créer un chef-d'œuvre. Il y a cependant une condition préalable à remplir pour être utilisé par Dieu, comme Paul l'écrit dans 2 Timothée. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Pour accomplir son œuvre, Dieu utilise des instruments saints, mis à part pour lui, consacrés, entièrement soumis à sa volonté. Or, Philippe représente ce genre d'instrument. Quand il reçoit l'ordre de partir pour un voyage qui lui semble, ça doit lui sembler étonnant, il se lève et part. Il délaissait l'œuvre florissante qu'il y avait de Samarie. Pour un chemin désert peut sembler absurde pour beaucoup, mais pas pour l'homme de Dieu qu'un ange du Seigneur vient de visiter. Philippe reçoit d'un ange l'ordre de s'approcher de ce char, et aussitôt il accourt vers lui. Il entend l'Éthiopien qui lit le prophète et lui demande « Mais comprends-tu ce que tu lis ?» Non, l'Éthiopien il comprend rien du tout. Donc l'eunuque revient en char d'un pèlerinage à Jérusalem en apportant avec lui un trésor inestimable, les Écritures. Il les lit à haute voix comme on le faisait habituellement dans l'Antiquité. Et il demande à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Ah, c'est une belle question. Nous souhaitons et nous prions que les gens nous posent ce genre de questions. Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Dans cette histoire, si vous analysez bien, il y a deux bouches. La bouche du serviteur souffrant. Il n'ouvre pas la bouche, nous dit Ésaïe. Et la bouche du diacre Philippe, devenu évangéliste, il ouvrit la bouche et commençant par ce texte, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Alors nous avons une bouche fermée et une bouche ouverte. Notre Sauveur souffrant est demeuré silencieux, afin que nous puissions ouvrir la bouche en son nom. Alors pourquoi le Sauveur est-il resté silencieux? Parce que durant son ministère public, Jésus n'a jamais hésité à ouvrir la bouche. Chaque fois qu'il l'ouvrait, c'était pour transmettre des messages qu'il avait reçus de son Père. Et il dit dans l'Évangile de Jean au chapitre 12, « Car mes paroles ne viennent pas de moi ». Mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Jésus, nous savons, il a prêché, il a annoncé l'arrivée du royaume et il a dit « Suivez-moi ». Il a enseigné en public, en privé. Il a prononcé des paroles de réconfort, il a confondu ses contradicteurs. Il a condamné le péché. Et il a répondu à de multiples questions qu'on lui posait. Il a chassé des démons, donné l'ordre à la tempête de se calmer. Et jamais personne n'a parlé avec autant d'autorité. Il est le plus grand de tous les prophètes. Mais voilà qu'à l'approche de la croix, il se tait. Il demeure silencieux. À quelle occasion? À deux reprises. D'abord, pendant son procès devant le Sanhédrin, le grand conseil des Juifs cherche à produire de faux témoignages pour le faire mourir. Les plus grands dirigeants de Jérusalem pèchent délibérément contre le 9e commandement. Ils accusent faussement Jésus pour le faire mourir. Et lui, que fait-il? Que fait-il dans la parole de Dieu? Il garde le silence. Le souverain sacrificateur lui demande alors s'il est le Christ, le Fils de Dieu. Et là, Jésus ouvre la bouche et répondit, tu l'as dit. Donc quand on prononce un faux témoignage contre lui, quand on dépose une fausse accusation, il demeure silencieux. Quand on prononce un vrai témoignage concernant sa personne, il répond et confirme ce témoignage. Quelques instants plus tard, Jésus, lui, comparaît devant Pilate, le gouverneur romain. La même chose se produit. Pilate lui demande, « Es-tu le roi des Juifs ?» Et Jésus ne reste pas silencieux, il lui répond, « Tu le dis. » Mais Jésus ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate, il est très étonné, il lui dit, « Mais n'entends-tu pas tout ce que, dont il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Jésus est accusé faussement devant la plus haute autorité religieuse de son temps, puis devant la plus haute autorité judiciaire. Les deux fois, notre Sauveur Jésus demeure silencieux. Pourquoi ? Pourquoi ? N'a-t-il rien à leur dire de la part du Père ? Au contraire, il a de grandes choses à leur dire. Je suis le Messie, le grand roi, le Fils de Dieu. Est-il dépourvu ? Est-il intimidé ? Pas du tout. Lui, le prophète par excellence, il a toujours la bonne parole au bon moment. Alors pourquoi demeure-t-il silencieux quand on l'accuse faussement ? Est-il mal de se défendre quand on est traîné devant les tribunaux ? Pas du tout. La réputation d'une personne est précieuse. La légitime défense permet de préserver sa réputation. Quand l'apôtre Paul est accusé faussement, il se défend. Il utilise ses droits de citoyen romain. Il demande à être entendu devant César. Dans le but ultime de rendre témoignage à l'Évangile, lui, Jésus, il avait aussi peut-être une occasion en or de se défendre devant le conseil des Juifs et devant le gouverneur romain. Il aurait pu de cette façon rendre témoignage de l'Évangile avec puissance. Et il ne le fait pas. Bien sûr, il témoigne, il répond aux questions. Es-tu le Christ, le Fils de Dieu ? Tu l'as dit. Es-tu le roi des Juifs ? Tu le dis. Mais quand il est faussement accusé, il garde le silence, pas un mot. Pourquoi ? Pourquoi ? Ésaïe 53 nous aide à comprendre. Il est dit, il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'ouvre pas la bouche. Vous avez déjà vu un tondeur de brebis faire son travail ? C'est surprenant de voir cela, de voir un mouton se faire tondre. Le tondeur tient le mouton pendant toute la tonte. Et le mouton, il se laisse faire. Il dit rien, sans crier. Il reste muet, sans même essayer d'échapper, jusqu'à ce que toute sa laine soit tondue. Ésaïe 53 superpose deux images. Un agneau qui se fait tondre et une brebis qu'on mène à l'abattoir. Il fallait que Jésus soit docile pour être mené à l'abattoir. Ésaïe nous dit, nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Nous étions comme des brebis perdues. Et que fait le Sauveur ? Il est docile comme une brebis à l'abattoir. Il est silencieux, comme un agneau muet devant celui qui le tond. N'est-ce pas étonnant de voir cela ? Lui, Dieu incarné, seul homme parfait, sans péché, sans reproche, le seul qui aurait pu parler pour défendre sa cause, il reste silencieux. Il aurait pu très bien démontrer son innocence. N'est-ce pas? Mais que serait-il arrivé s'il avait corrigé les faits et gagné sa cause? Qu'est-ce qui serait arrivé? Il aurait évité sa condamnation, n'est-ce pas? Mais alors, il n'aurait pas été offert en sacrifice pour nous délivrer. Nous serions encore dans nos péchés et nous ne serions pas ici aujourd'hui, dans cette assemblée, pour l'adorer et le remercier pour son sacrifice parfait. Il fallait que notre Sauveur souffre l'humiliation des fausses accusations. Il fallait qu'il demeure en silence afin d'aller à l'abattoir, subir la mort à notre place et nous procurer la délivrance. Voyez, cette image de l'agneau dans Isaïe 53 ne nous parle pas seulement de la docilité de Jésus, elle nous parle de tout le système sacrificiel de l'Ancien Testament. Dieu avait préparé depuis longtemps un moyen pour expier les péchés de son peuple. Et Jean-Baptiste l'avait compris. Dans Jean, au chapitre 1, il dit « Voici, en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Essayons de mieux comprendre. Transportons-nous dans un autre tribunal, par exemple, avec un autre accusé. Je ne vous dis pas qui est l'accusé. À vous de le trouver. Commençons par les accusateurs. Ça vous donnera des indices. Premier accusateur, la loi de Dieu, les commandements du Seigneur qui nous disent tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas de statue pour les adorer. Ne prends pas mon nom en vain. Respecte le jour du repos. Honore tes parents. Ne commets pas de meurtre, pas d'adultère, pas de vol, pas de faux témoignage. Ne convoite rien qui appartient aux autres. Garde ton cœur pur, sinon tu devras payer ce que tu dois. Celui qui pêche doit mourir. Deuxième accusateur, la conscience. Cette voix intérieure qui nous parle et qui dit « Si seulement j'avais écouté ce frère ou cette sœur dans l'église qui m'a déjà donné des conseils, si j'avais écouté la parole de Dieu, j'ai vraiment mal agi. » Troisième accusateur, l'ennemi, le diable, rusé, menteur qui dit « Maintenant, je te tiens, tu ne pourras pas m'échapper. » Alors, qui est l'accusé, d'après vous? Le reconnaissez-vous? Chacun s'est reconnu, vous et moi. Oui, un jour, nous devrons tous nous présenter devant Dieu, devant son tribunal. Le Seigneur vient bientôt, il vient juger, il est dit, il est vivant et il est mort. Ce sera un jour grave, solennel, la crise la plus profonde de l'histoire, il nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de mon évangile? Qu'as-tu fait de mes commandements? Comment as-tu géré ta vie? Comment m'as-tu aimé et servi avec les dons que je t'ai accordés? Serons-nous capables de répondre à une seule de ces questions? Malheureusement, les accusés seront bien obligés de rester silencieux, sans excuses, incapables de se justifier. Et ils entendront ces paroles terribles. « Éloignez-vous de moi, dans Matthieu 25, vous qui êtes maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. » Nous avons toutefois un grand sauveur. Il est notre avocat, notre parfait refuge, qui nous sauve du jour de la colère de Dieu. Alors qu'en est-il de nous? Devons-nous rester silencieux devant nos accusateurs? Si nous croyons en Jésus-Christ, nous avons au contraire toutes les raisons d'ouvrir la bouche. Nous avons beaucoup de choses à raconter, pas pour nous défendre, mais pour parler de ce que Jésus a fait pour nous. Alors qu'avons-nous à dire en son nom? Qu'avons-nous à dire en son nom? En fait, la question est plutôt, comment pourrions-nous rester silencieux? Pensez-y. Le silence de Jésus est source d'une grande libération et d'un grand bonheur pour nous. Seigneur Jésus n'a pas ouvert la bouche afin d'être accusé et condamné à notre place. Il est resté silencieux afin que nous soyons libérés. Ésaïe nous dit, il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. L'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. N'est-ce pas notre plus grande joie? Acquitté, pardonné, délivré de nos péchés par le sang de l'agneau. Nous avons la paix avec Dieu. Il n'y a pas de plus grande libération. Nous n'avons pas besoin d'ouvrir la bouche pour essayer de nous expliquer devant Dieu, trouver des excuses, essayer de défendre notre cause. Jésus s'est tenu seul en silence devant ses accusateurs pour que nous n'ayons plus besoin de nous tenir tout seuls devant Dieu. Aujourd'hui même, le Seigneur Jésus-Christ, notre avocat, se tient devant le Père pour défendre notre cause. Il prie pour nous, il intercède, il ouvre la bouche en notre faveur. Il dit à son Père, à notre Père, « Tout est réglé, j'ai donné ma vie pour mes brebis. J'ai payé leur prix. J'ai payé le prix de leur péché. » Au grand jour du jugement, Jésus-Christ ouvrira la bouche publiquement devant tous. Il dira haut et fort, « J'ai payé le prix de leur péché, qu'ils entrent dans mon royaume. » Alors, resterons-nous silencieux? N'est-ce pas au contraire une magnifique raison d'ouvrir la bouche et de dire haut et fort, « Béni sois-tu, béni soit notre Dieu. » Loué soit l'Éternel, car il a fait de grandes choses pour moi. Il m'a procuré un merveilleux salut en Jésus-Christ. Nous avons connu la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ne restons pas muets. Ne restons pas silencieux devant Dieu ni dans son assemblée. Louons-le. Bénissons-le pour ce si grand salut. Ouvrons notre bouche et proclamons avec joie et fierté ce qu'il a fait pour nous. Oui, ouvrons la bouche devant Dieu, en guise d'adoration et de louange, moi aussi devant les hommes, en guise de témoignage et d'évangélisation. Alors, je reviens sur cet Éthiopien qui lisait Ésaïe 53 et qui a demandé à Philippe, « Comment pourrais-je comprendre si personne ne me guide ?» Cet homme au placé, avait besoin d'un guide. Dieu lui a envoyé ce guide d'une manière spéciale. Son ange a donné l'ordre à Philippe d'avancer. Dieu aurait pu très bien envoyer son ange à l'Éthiopien. L'ange était capable d'expliquer Ésaïe 53 avec puissance. Les anges seraient beaucoup plus efficaces que nous dans l'œuvre missionnaire. Et dans sa grande sagesse, Dieu a plutôt choisi d'envoyer des pécheurs pardonnés pour annoncer son évangile au monde. Des témoins qui ont eux-mêmes besoin de l'évangile et qui témoignent du pardon qu'ils ont reçu en Jésus-Christ. Philippe a d'abord cru au Seigneur Jésus. Ensuite, il a loué Dieu avec toute l'Église de Jérusalem. Il a persévéré dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous écoutons, nous, la bouche du pasteur qui enseigne. Ensuite, nous ouvrons la bouche pour l'adorer, pour chanter, pour prier, pour parler ensemble de ce que Jésus a fait pour nous. Et ensuite, nous sommes prêts à ouvrir la bouche devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Philippe était prêt à ouvrir la bouche pour expliquer l'évangile à cet Éthiopien. Comprends-tu ce que tu lis ? Non. Que lit-il ? Ésaïe 53. Il a été mené comme une brebis à l'abattoir et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, son droit était supprimé. Je te prie, de qui le prophète dit-il cela ? De lui-même ou d'un autre ? Et dans l'esprit de Philippe, il n'y a aucun doute quant à ce qu'Ésaïe a écrit. Philippe, il connaissait la réponse, il connaissait les Écritures, il connaissait la grâce de Dieu en Jésus-Christ pour l'avoir lui-même reçue. Alors Philippe ouvrit la bouche et, commençant par ce texte, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Ouvrir la bouche devant ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, répondre à leurs questions, expliquer les Écritures, annoncer la bonne nouvelle de notre Sauveur, c'est très bon. Nous sommes tous capables de le faire si nous croyons en Jésus, si nous avons le Saint-Esprit qui fait de nous des témoins, si nous avons été instruits dans les Écritures. Certains non-chrétiens ont des philosophies compliquées, des objections à n'en plus finir. Il est difficile de parler de l'Évangile avec eux, mais ce n'est pas impossible. D'autres personnes ont simplement des questions, comme l'Éthiopien. Elles ont besoin d'un guide qui leur annonce la bonne nouvelle. Serons-nous ce guide ? Nous ne sommes pas tous équipés pour répondre à tous les arguments compliqués. Mais nous sommes cependant tous capables d'être un guide comme Philippe. Il suffit d'être prêt, disponible, disposé à ouvrir la bouche quand l'occasion se présente. Alors pensez-y, la bouche de Philippe a permis d'ouvrir le grand champ missionnaire de l'Afrique. L'Égypte et l'Éthiopie ont rapidement été christianisées dès les premiers siècles. Ce haut fonctionnaire de la reine d'Éthiopie y est pour quelque chose. Alors pour terminer, je cite l'apôtre Pierre qui dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 15, « Mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ, le Seigneur. Soyez toujours prêts à vous défendre contre quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et crainte. » Cette disposition à répondre aux questions des non-chrétiens commence dans nos cœurs. Sanctifiez dans vos cœurs Christ, le Seigneur. Que le Christ soit votre joie, votre vie, la source de votre paix avec Dieu. Chérissez le Seigneur et Sauveur dans vos cœurs. Chérissez sa parole. Toute présentation efficace de l'Évangile repose solidement sur l'Écriture. L'utilisation d'un témoignage personnel, d'histoire, de traité et d'autres outils ne peuvent remplacer l'Écriture, car seule l'Écriture est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. La puissance est dans la parole de Christ. Lui qui n'a pas ouvert la bouche, afin d'être accusé et condamné à notre place, il nous donne son esprit pour que notre bouche s'ouvre et soit remplie de louanges et d'adoration, pour que nous soyons toujours prêts à annoncer la bonne nouvelle de Jésus à la personne que le Seigneur met sur notre chemin. Merveilleux Sauveur sur la croix, j'annoncerai ce que tu as fait, je parlerai de ta grandeur. Je ferai le récit de tes merveilles. Amen.